chef de l'État Joseph Kabila a présidé vendredi dernier à Kinshasa une réunion interinstitutionnelle centrée sur l'examen du processus électoral. Selon le ministre de l'Intérieur qui a fait le compte-rendu, le président de la CENI a démontré que 93% de la surface du pays est maintenant pourvue du matériel électoral indispensable à la tenue des élections le 23 décembre. Il a été néanmoins relevé quelques difficultés résiduelles relatives à l'acheminement du matériel, a-t-il précisé. À ce jour, quelle analyse faire du processus électoral? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Bob Kabamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Emmanuel Kabengele, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste politique et économique. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le chef de l'État Joseph Kabila a présidé vendredi dernier à Kinshasa une réunion interinstitutionnelle centrée sur l'évolution du processus électoral un jour après l'incendie d'un dépôt de la CENI dans la ville de Kinshasa. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, ainsi que les chefs des autres institutions ont participé à cette réunion. Le compte-rendu de cette rencontre est fait par le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
La réunion proprement dite a porté sur un seul point, à savoir examen du processus électoral. Le dirigeant de la centrale électorale a démontré que 93% de la surface du pays est maintenant pourvue du matériel électoral indispensable à la tenue des élections le 23 décembre de l'année en cours. Il a été néanmoins relevé quelques difficultés résiduelles relatives à l'acheminement du matériel. Il a également été signalé que la centrale était dans l'attente de 400 tonnes d'imprimés. La CENI est ainsi en train de prendre des dispositions idoines pour la tenue des élections à la date prévue selon son calendrier. Ainsi, les élections doivent bel et bien se tenir sans difficulté logistique majeure le 23 décembre 2018.
À 5 jours de la tenue des élections, lundi hier, la CENI a lancé la formation en cascade de ses agents et cadres qui vont travailler dans les bureaux de compilation des résultats des scrutins du 23 décembre. Il s'agit de la formation, entre autres, des présidents des centres locaux de compilation des résultats, des administrateurs du logiciel de compilation des résultats et des experts juristes. La formation de 2 jours se passe simultanément à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. On écoute les explications de Jean-Baptiste Seitipo, chargé de communication de la CENI, au micro de Daniel Tambinzoni.
Cette formation a pour objectif global de garantir le bon fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats, mais aussi de renforcer et d'améliorer les capacités techniques des présidents des bureaux des centres locaux de compilation des résultats, mais aussi de renforcer et d'améliorer les compétences ou les connaissances des administrateurs sur le fonctionnement du logiciel du centre local de compilation des résultats et les compétences des experts juristes sur le fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats en vue d'une meilleure prise en charge du traitement des contentieux des résultats. Cette formation qui démarre ces jours concerne les cadres et agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi 7486 agents temporaires qui sont en train de suivre cette formation à travers le pays, et cela du 17 au 21 décembre 2018 pour la prise en charge dans les 179 centres locaux de compilation des résultats.
Professeur Bob Kabamba, vous enseignez à l'Université de Liège en Belgique et vous êtes également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. À 5 jours des scrutins, quel bilan dressez-vous du processus électoral? Vous avez suivi dans le compte-rendu de la réunion interinstitutionnelle, le président de la CENI affirmait que 93% de la surface du pays est maintenant pourvue en matériel électoral indispensable. Professeur.
Okay. Merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation par rapport à participer à cette émission. Par rapport aux chiffres d'une lettre avancée, c'est-à-dire 93% de la surface de la RDC qui est couverte en termes de déploiement de matériel, il y a assez étonnant, effectivement, que l'on puisse annoncer un tel chiffre. Sachant très bien que lorsque l'on aborde cette question-là, c'est que la CENI annonce ça, alors que nous savons tous que à Kinshasa, il y a eu quand même un incendie, oui, la machine a été, comme elle l'a expliqué, avec un bilan assez catastrophique sur ce qu'il y a roulé. Et donc, on sait que les matériels destinés à Kinshasa est brûlé, et puis on sait que le 95% de déploiement est déjà effectué, et que si on essaye de les frapper, est-ce que ça veut dire que les 7% qui restent, c'est ce qui a roulé à Kinshasa. Donc il y a manifestement un gros problème au niveau de la communication de la CENI pour pouvoir arriver, d'une part, d'abord à rassurer que le processus n'est pas véritablement dépassé, et par ailleurs aussi, c'est que la CENI a toujours un très 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 gros problème en termes d'appropriation du processus. Il est partout où vous allez vous questionner si bien les partis prennent vous questionner si bien les électeurs, et partout on vous dit qu'on n'est pas sûr que le processus électoral aura bien lieu le 23 décembre, puisque la CENI n'arrive pas à rassurer, n'arrive pas à donner des indications qui permettent de pouvoir rassurer les gens que les élections vont se passer dans les bonnes conditions le 23.
Professeur, un exemple aussi, c'est que la CENI... Professeur, la réalisation va tenter de vous rappeler, parce que la qualité de votre ligne se dégrade, on ne vous capte pas très bien. Entre-temps, je donne la parole à Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité. Vous avez suivi dans le compte-rendu de la réunion interinstitutionnelle, le ministre de l'Intérieur dire que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre, avec quelques petits problèmes logistiques pas majeurs.
Bon, en fait, je salue déjà cette détermination qu'il y ait élection, parce que notre souci, c'est qu'il y ait élection le 23 décembre. Mais les inquiétudes continuent à planer, parce qu'on ne nous a pas dit, par rapport à Kinshasa, en rapport avec l'incendie qu'il y a eu, quelle est l'alternative qui a été prise en termes déjà de solutions. Ça, au niveau de communication, on ne nous l'a pas montré. Et également aussi la tension déjà qui est d'une certaine manière en train de monter. Une tension qui est pratiquement due à une sorte d'intolérance à un certain nombre d'endroits du pays au niveau de cette campagne électorale. Cette tension ne présage pas de bonnes élections ce 23 si jamais toutes les parties prenantes n'essayent pas de se ressaisir. Vous avez appris en fait ce qui s'est passé à Chicapa avec déjà quelques cas de blessés, quelques cas de morts, et puis le saccage de bureaux d'un parti politique. Vous avez également appris ce qu'il y a eu à s'être passé également aussi à Kindu. Vous avez appris ce qu'il y a eu à être passé à Lubumbashi. Donc ce sont pratiquement...
Et à Kalemie aussi.
Et à Kalemie, ce sont des signes qui étonnent. Ce sont des signes sur lesquels nous voudrions que nos autorités, surtout le gouvernement, puissent avoir un regard par rapport à la sécurisation de ce processus.
Alors, le président de la CENI dit que 93% de la surface du pays est maintenant pourvue du matériel électoral indispensable à la tenue des élections du 23 décembre. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
On est à 5 jours. On est à 5 jours et je ne sais pas sincèrement. Bon, je prends acte de ce point de vue parce que c'est lui le président de l'organe qui organise les élections. Mais il y a des inquiétudes parce que à 5 jours, on commence une formation en cascade. À 5 jours, on commence déjà une formation en cascade. Vous avez appris déjà que il y a la formation qui a eu à être lancée et que les élections vont se tenir le 23. Cette manière d'aller à la va-vite m'inquiète. Donc, on risque d'avoir affaire à des formations qui sont organisées juste parce qu'il fallait organiser la formation. et que quelle que soit l'intelligence en fait de personnes formées, il fallait qu'il y ait un temps suffisamment considérable pour que les personnes formées soient même de mieux ne fût-ce qu'arriver à pratiquer ce qui a à être formé, bon, ce qu'ils ont reçu en termes de formation, mais ce sont pratiquement des inquiétudes. J'ai l'impression que la vitesse avec laquelle ces formations sont organisées risque d'avoir une influence négative sur le scrutin du 23, parce que c'est à la va-vite que ces formations sont données, et même le formateur, le facilitateur qui vont, c'est à la va-vite. C'est vraiment maintenant une course contre la montre, parce qu'on veut à tout prix avoir les élections le 23. Pourtant, ce sont des formations qu'on aurait pu avoir au moins un mois avant ces élections. Et avec ces formations, on aurait pu effectivement avoir affaire à des agents électoraux qui pratiquent déjà, et qui déjà le 23 décembre, ils ne viennent pas comme des travaux pratiques, mais qu'ils viennent déjà avec une matière suffisamment bien assimilée. Bon, espérons que le 23, les élections se tiendront bien.
Vous êtes coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité, Emmanuel Kabengele. Sur le plan sécuritaire, quel bilan pouvez-vous dresser à 5 jours des élections?
Non, à 5 jours des élections, sur le plan sécuritaire, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon parce qu'il y a déjà des tensions, et des tensions deux fois. Il y a des violences verbales et même des violences physiques. Il y a une intolérance pratiquement politique. Il y a un discours presque divisionniste, et nous en appelons à la tolérance. Nous sommes en période de campagne, mais la période de campagne n'exclut pas qu'il y ait le respect de la dignité de la personne humaine. La période de campagne n'exclut pas qu'il y ait le respect des droits de la personne humaine. Nous déplorons un certain nombre d'actes d'intolérance qu'il y a eu. Nous déplorons sincèrement de pertes en vies humaines. Vous savez qu'il y a certaines pertes en vies humaines qui sont arrivées simplement parce qu'il y a eu un management qui n'a pas fait le travail comme il devait se faire. Lorsque un candidat à la présidence arrive dans une province et qu'il y a déjà deux barrières qui sont dressées la nuit pour pouvoir ne pas permettre à les sympathisants d'aller à l'aéroport, comme le cas qu'on a connu en Bujimaï, comme également le cas qu'on a connu à Kananga, s'en fait un peu des actes qui d'une certaine manière arrivent à créer des frustrations. Et de ces frustrations, on peut arriver à des colères. Et des colères, il y a un certain nombre de moyens de pouvoir exprimer ces colères. Merci. Et lorsqu'on a affaire à la foule, bon, il exprime ses colères à sa manière.
Israël Moutala, vous êtes journaliste, analyste politique et économique. Quel est votre bilan à vous à 5 jours des scrutins?
Bon, à 5 jours de scrutin, j'ai eu beaucoup peur lorsque j'ai appris l'incendie du principal entrepôt de la CENI à Kinshasa, qui a vu à peu près 8000 machines calcinées, selon le rapport de la CENI. Bon, j'ai été tout de suite rassuré parce que la CENI a dit que, comme solution de rechange, elle allait puiser dans les réserves, dans les machines de substitution, dans les machines de remplacement qu'elle a. Et donc, elle va rapatrier un certain nombre de machines pour compenser les 8000 machines qui avaient été calcinées. Donc, sur il y a à peu près 75 600 bureaux. La CENI va acheter la commande des machines, et c'était à peu près 5 à 8 000 machines. Donc je pense que elle a de quoi puiser dans ses réserves, configurer ses machines, et pour que le vote ait lieu à Kinshasa. Mais c'est toujours un défi logistique, parce que les machines, si elles n'étaient pas à Kinshasa, il fallait les chercher là où il y a un surplus pour le ramener à Kinshasa. Donc par rapport à l'incendie, ma plus grande inquiétude a été plus ou moins écartée. Mais comme vous le savez, par rapport au matériel électoral, ça comporte pas seulement les machines à voter, ça comporte également les imprimés, qui sont les fiches électorales et les PV des résultats. C'est aussi les urnes, c'est aussi les encres indélébiles, c'est les stylos, c'est les isoloirs. Il y a tout ça, ça constitue...
Tout un kit.
Après, c'est tout un kit, c'est tout ça qu'on appelle matériel électoral. Donc, voilà. Pour les fiches, j'avais aussi une grande crainte par rapport aux fiches, parce que... voilà. Mais... le président de la CENI avait expliqué que pour les fiches des résultats et les PV, tout ça, c'est des matériels dits sensibles qui doivent être déployés 48 heures avant le scrutin et récupérés 48 heures après. Donc, dans sa stratégie de déploiement de matériel logistique, il y a des matériels qui précèdent, il y a d'autres matériels qu'il avait dit que c'était des matériels de vote électoral sensibles et qu'on ne peut pas les déployer plus tôt. On ne devait pas aussi les récupérer plus tard. Donc il y a une période critique, 48 heures avant et 48 heures après, où il faut les déposer et aussitôt les récupérer. Donc là, il parlait justement de fiches et des procès-verbaux des résultats. Il y en a à peu près pour 1 600 000. Et donc c'était imprimé en Afrique du Sud. Un premier lot est arrivé aujourd'hui. Et donc, il y a encore un grand défi logistique à déployer ça sur l'ensemble du territoire.
Alors, vous avez suivi le ministre de l'Intérieur dans son compte-rendu dire qu'il a été néanmoins relevé quelques difficultés résiduelles relatives à l'acheminement du matériel. Quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, plusieurs analystes, plusieurs observateurs craignaient que ce déploiement, effectivement, ne puisse poser problème.
Oui, le défi logistique est immense. Je pense que... on le verra. Le défi logistique est immense. Donc, le matériel est acheminé parfois en pirogue, parfois sur des motos, parfois sur des vélos, pour atteindre les coins les plus reculés. Il y a aussi des défis sécuritaires. Il n'est pas facile de déployer le matériel autour de Béni. Donc, il y a vraiment de réels défis. Il y a aussi les défis sanitaires avec la crise d'Ebola qui sévit toujours dans le même périmètre. Donc, il faut dire que relever ces défis serait quand même un exploit. Nous sommes dans une période pluvieuse, il se peut que des routes soient embourbées, il se peut que un pont casse. D'ailleurs, il y a un pont qui a cassé du côté dans l'ex-province orientale. Il faudrait que la CENI, si dans son plan il fallait que ses camions passent par là, il faudra revoir, parce qu'il y a un pont qui est cassé, qui n'est pas encore réparé, et c'est ce qui a fait que les prix ont augmenté de prix, les denrées ont augmenté de prix. Donc le défi logistique est encore entier. Mais les autorités de la CENI, les autorités gouvernementales nous disent que les élections se tiendront le 25. Je souhaite vivement que
le 23.
Le 23. Je souhaite vivement que ces élections se tiennent le 23. Mais je dis ceci. À supposer que les élections ne se tiennent pas le 23. À supposer qu'il y ait un petit glissement technique d'une semaine, de deux semaines. Ça sera pas pour moi la fin du monde. Donc pour moi, j'aimerais bien que nous votions le 23. J'espère que le gouvernement et la CENI ont pris toutes les dispositions pour que le 23, il y ait vote, il y ait élection. Mais si, en cas de force majeure, si, voilà, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à le faire le 23, ce n'est pas si dramatique que ça.
Alors, et donc, si je vous comprends, il ne faudrait pas que l'on tombe dans le fétichisme des dates, mais est-ce que ce ne serait pas le moment, par exemple, de commencer à dire la vérité au peuple congolais?
Bon, c'est ça le problème. Je ne gère pas la communication du gouvernement ou tout ça, mais je pense que s'il y avait un soupçon de report, c'est pas aujourd'hui. Bon, il faut peut-être préparer les esprits ou laisser la campagne aller jusqu'à son terme, surtout la période électorale, et puis à la fin de la période électorale, peut-être annoncer ces petits glissements qui peut technique ou pas. Mais voilà à peu près. Mais encore une fois,
merci.
Le plus dur, le problème, c'est de faire parler les Congolais. Si on peut les faire parler le 23, tant mieux. Si on peut les faire parler une semaine après ou deux semaines après, ce n'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique.
Merci, Israël. Professeur Bob Kabamba, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez? Professeur Bob Kabamba, Décidément, nous avons encore quelques soucis avec sa ligne. Emmanuel Kabengele, Israël Moutala souhaite qu'on ne s'accroche pas au fétichisme des dates, le 23 à tout prix. Si jamais il arrivait que ce ne soit pas prêt le 23, un petit glissement d'une semaine ou de deux ne serait pas dramatique à son avis.
Mais les glissements que l'on annonce à la veille, c'est ce qui est inquiétant. En fait, pour nous, la date du 23 devient un peu, bon, je ne dis pas une date un peu fétichiste, mais une date qui est presque dans une sorte de psychose, hein, qui crée une psychose. On attendait tous le 23, parce que c'est un 23 que l'on attendait de tous les vœux depuis tout ce temps, et que ce 23 va arriver au sommet de... ce mois de décembre, et on espère que les élections pourront se tenir. Aujourd'hui, nous sommes quelle date?
Le 18.
Nous sommes le 18, et c'est pas aujourd'hui qu'on peut déjà parler du glissement technique. C'est pas aujourd'hui que l'on peut déjà parler du glissement technique. Vous avez suivi l'évaluation du processus électoral qui vient d'être fait tantôt par le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a eu une réunion. Ils nous garantissent qu'il va y avoir élection. Ils nous garantissent que 93% du matériel déjà déployé. Donc, nous, de bonne foi, nous croyons déjà en cette garantie, et nous espérons et nous appelons de tous nos voeux qu'il y ait élection ce 23 décembre, parce que pour nous, c'est déjà une date qui est dans la psychose.
Merci. Professeur Bob Kabamba, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, hein, je vous écoute, oui.
Merci, votre ligne est claire maintenant. Professeur, vous émettiez déjà quelques doutes quant à cette affirmation de la CENI de dire que 93% de la surface du pays était couverte en termes, en matériel électoral, et que le 23, on aurait les élections. Vous pouvez poursuivre votre idée?
Oui, c'est-à-dire que lorsque la CENI annonce effectivement 93% de la surface de la RDC couverte, alors dans ce chiffre-là, je ne sais pas quand ils disent ça, s'ils ont tenu compte effectivement de l'annonce qu'eux-mêmes ils ont faite sur la question de dire qu'il y a exactement 8000 machines, ça veut dire que la plupart des bureaux de vote de Kinshasa n'avaient pas été fournis en matériel. Alors comment est-ce que la CENI peut arriver à ce chiffre-là, tout en sachant bien compte que Kinshasa, qui est la circonscription électorale, la ville qui a le plus d'électeurs, n'avait pas couverte. Or, en termes de population et en termes de nombre d'électeurs, Kinshasa ne représente pas 7%. Par ailleurs aussi, il y a quand même d'autres difficultés que la direction de la CENI a toujours et n'essaye pas de les résoudre. C'est la question en fait de rassurer. C'est vraiment une très très grande question. C'est que la CENI ne rassure ni les électeurs, ni les candidats, ni les parties prenantes. Et alors, lorsque l'on n'est pas assuré, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne croit pas dans ce processus et qu'on a l'impression que la CENI avance toute seule et que dans son avancement, elle ne tient même pas compte des avis, elle ne tient même pas compte d'expliquer, de commencer à faire une vulgarisation, alors qu'elle a eu des budgets sur cette question-là. Et c'est ça, en fait, la grande difficulté que la CENI a à pouvoir convaincre que les élections auront bien les pieds en lieu le 23. Alors, j'ai pu téléphoner un petit peu dans plusieurs villes de la RDC, où on semblait bien indiquer que il y a des endroits où on n'a toujours pas eu de déploiement des matériels électoraux dans ces villes, voire même dans certains villages où on a encore des problèmes de déploiement. Et donc ça fait en sorte que les populations n'y croient pas, et de plus, pas que les populations, mais aussi les candidats. Et les candidats, vous avez vu que les candidats se sont déployés que tardivement, pour la bonne et simple raison qu'ils n'arrivaient toujours pas à être rassurés que les élections auront bien lieu.
Alors, professeur, en parlant des candidats, on en a vu trois principaux qui semblent émerger. Ramazani Shadari du FCC, Félix Tshisekedi du CASH et Martin Fayulu de la Mouka. Est-ce qu'on peut simplement attribuer le fait que les autres candidats, les autres, à part ceux qui se sont désistés, bien évidemment, les autres ne se soient pas déployés simplement pour des problèmes logistiques?
Ben, je pense aussi que si vous savez bien ce que ça veut dire une élection présidentielle en RDC, vous devez bien comprendre le silence des autres candidats.
C'est-à-dire que lorsque l'on est candidat à la présidence de la République en RDC, ça veut dire qu'il faut déployer beaucoup de moyens, il faut avoir une logistique comparable à celle de la CENI pour être sûr de pouvoir vraiment battre campagne. Quand on dit moyens logistiques, ça veut dire que l'on compte en termes de moyens financiers en dizaines de millions de dollars pour arriver à couvrir carrément la RDC en termes de campagne électorale. Et donc les trois qui émergent, ce sont les seuls trois qui ont les moyens financiers pour pouvoir être présents dans pas toutes les provinces, comme vous l'avez vu, que dans certaines provinces, en pensant que c'est les provinces qui comptent, qui vont leur permettre de pouvoir peser dans l'électorat. C'est uniquement une question de moyens et une question donc de logistique par rapport à ces candidats qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le soutien pour arriver à faire parler d'eux en dehors de la ville de Kinshasa. Et encore, certains, on n'en parle pratiquement plus jamais depuis qu'ils ont posé leur candidature, qu'ils ont été acceptés par la CENI et la Cour constitutionnelle.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous répondez à certains analystes en parlant de ces candidatures qui parlent pratiquement des candidatures fantaisistes?
Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte dans la culture politique congolaise, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est toujours habitué en se disant, ben oui, si je pose ma candidature à la présidence de la République, en n'étant pas sûr qu'il y aura des élections, il pourrait y avoir des discussions, des négociations. Et de ce fait-là, s'il y a des discussions et des négociations, je peux participer à ces discussions et des négociations et espérer revenir avoir un poste ministériel ou un autre, n'importe quel autre poste pour pouvoir être remboursé des moyens que j'ai dépensés pour la caution et pour la campagne électorale. Par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte aussi que plusieurs candidats aussi, quand ils posent leur candidature, c'est dans l'espoir d'être rachetés par un autre candidat en termes de soutien, en disant, bah oui, je peux être racheté par un autre candidat pour lui apporter mon soutien. Et de ce fait-là, j'existe au niveau politique, j'existe au niveau de la culture politique congolaise. C'est ça, en fait, cette difficulté qui, malheureusement, est devenue une culture, on va dire, une culture politique où on pense qu'en étant candidat à président de la République, on compte dans le paysage politique congolais et de ce fait, on est pris au sérieux et que l'on peut, de ce fait-là, être récupéré par l'un ou l'autre candidat en termes d'achat de soutien.
Merci, professeur Israël Moutalaya, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Moi, c'est Raymond Diongo, depuis Kinshasa. C'est difficile de dire à haute voix la tenue des élections le 23 décembre, vu les opérations qui restent encore pour le déploiement des machines dans certains coins des pays. Et l'état qui reste, soit 4 jours. Selon ma question de savoir pourquoi la CENI n'a pas la volonté ou le courage de dire la vérité au peuple congolais, les difficultés auxquelles elle est confrontée pour la tenue des élections le 23 décembre, pour ne pas inscrire certains électeurs la volonté ou le droit de choisir les candidats préférés.
Israël Moutala.
Merci de la question, mais je sais que la CENI a les difficultés logistiques ne sont pas nouvelles. Elle était au courant du défi logistique qui était le sien. Et donc, je crois qu'elle s'y est préparée. Voilà. Donc, jusque-là, la CENI nous dit clairement qu'elle sera prête le 23. Le gouvernement qui sécurise les élections et qui a mis à la disposition les moyens logistiques, notamment l'armée, les moyens logistiques de l'armée, a dit qu'ils seront prêts. Donc, pour l'instant, je n'ai pas des éléments pour dire que le 23 décembre, il n'y aura pas élection. Et donc, même par rapport à la formation qui se déroule en ce moment, quand je jetais un coup d'œil tout à l'heure au calendrier de la CENI, il était prévu du 17 au 21 la formation. Donc, ils sont jusque-là en train d'exécuter leur calendrier. Donc, par rapport à ça, je ne vois pas, je n'ai pas d'éléments objectifs pour avancer que les élections ne se tiendront pas le 23.
Alors, on a évoqué Israël tout à l'heure avec le professeur Bob Kabamba, la posture des autres candidats qui ne battent pas campagne, on ne les voit pas, à part les trois qui semblent naturellement émerger. Il y en a même qui se sont désistés en faveur d'autres candidats. Est-ce que vous sentez leur apport aux personnes pour qui ils se sont désistés?
Je suis parfaitement d'accord avec le professeur Bob. Ça veut dire que il y a beaucoup de candidatures fantaisistes, il y a des candidatures de marchandage, il y a des candidatures de positionnement. Et donc, quand on avait publié la liste des candidats à la présidentielle, la liste définitive, bon, voilà, on n'avait pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que il y a des candidatures qui sont là juste pour peut-être, je sais pas moi, pour frimer, pour la gloriole, mais il y avait rien de consistant. C'est-à-dire que la politique, c'est pas un jeu. La politique, c'est quelque chose de sérieux, ça se fait pas en solitaire, ça se fait avec des structures, avec des machines politiques. Voilà, on peut pas se réveiller un matin parce qu'on a 100 000 dollars, on a pris dans une banque, et tout. Voilà, non. On est dans un pays continent. Et voilà, on peut pas aujourd'hui faire la politique en solo. Non, on l'a fait en groupe avec des structures de partis, on l'a fait avec des structures de la société civile, on l'a fait avec des plateformes. Mais non, on peut pas un jour, voilà, parce que même si par hasard ou un candidat qui n'a pas de structure, qui n'a pas de parti, qui n'a pas de plateforme venait à être élu président, il va mettre sa politique avec quelle majorité? Il va mettre en exécution sa vision avec quelle famille politique? Non, il faut être sérieux. Donc pour moi, il y avait 5 ou 6 candidatures sérieuses et les autres c'était des candidatures pour rire.
Alors les 3 principaux candidats, Emmanuel Ramazani Shadary du FCC, Félix Tshisekedi du CASH et Martin Fayulu de la Mouka, partout où ils passent, ils semblent drainer beaucoup de foule et ça fait un peu débat. De votre point de vue d'analyste, comment vous percevez ça?
Donc pour moi c'est logique, ça veut dire que la scène politique aujourd'hui il y a 3 courants. Et donc ça veut dire que d'abord il y a une évidence à la lecture du déroulement de la campagne électorale, c'est que la force la plus importante en RDC, elle est d'obédience, elle est de l'opposition. Ça c'est clair. Donc quand vous prenez comme indicateur la ferveur populaire au meeting de Fayulu et au meeting de Félix Tshisekedi, vous comprenez que une indication vous dit que la majorité des Congolais est plutôt d'opposition. Mais vous allez voir même que à l'issue de cette élection, quand vous allez additionner les voix et des Fayulu et des Félix Tshisekedi, elles seront largement supérieures aux voix de Shadary. C'est pour montrer que dans une partie de la population la plus importante, elle est du côté de l'opposition. Et donc il y a une autre surprise, c'est la candidature de Fayulu qui a démarré timidement mais qui a pris une ascension fulgurante.
Merci.
Voilà ce que je peux dire.
Merci Emmanuel Kabengele. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Bukavu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. Cette réunion interinstitutionnelle du vendredi dernier est en soi bonne, pour autant qu'elle constitue une des activités importantes du président de la République selon la Constitution. Mais dans le contexte général actuel du pays, elle semble à elle seule insuffisante pour faire aboutir le processus électoral. Je pense que 93% de la surface du pays pourvue du matériel électoral devrait également correspondre à 93%, voire plus, de la sécurité sur toute l'étendue de la RDC, surtout à l'Est. En d'autres termes, pour s'assurer de la bonne tenue ou du moins de la bonne passation des élections en RDC, force serait que cette réunion interinstitutionnelle traite aussi à fond des questions liées à la sécurité et à la décrispation du climat politique.
Emmanuel Kabengele.
Oui, il a complètement raison. Parce qu'on a juste, au niveau de la réunion institutionnelle, on a fait état du fait que, bon, tout est rose et que les élections vont se tenir comme il se doit. Bien sûr qu'on a dit, et là j'appréciais cette expression, malgré quelques difficultés résiduelles relatives à l'acheminement du matériel. Bon, vous savez qu'il y a un certain nombre de coins où réellement la sécurité pose problème. Vous avez la partie environnante de Beni où la sécurité également pose problème. Il y a également, comme venait de dire Israël tantôt, il y a également aussi le défi sanitaire, le fait déjà que avec la maladie Ebola, c'est aussi comme une sorte de tache d'huile dans le processus, et c'est également aussi un problème sécuritaire le plus récurrent. Mais au-delà de tout ce problème sécuritaire, moi je vois aussi les frustrations aussi liées à l'exercice de liberté publique. Ces genres de frustrations créent une sorte déjà de panique. Vous savez qu'il y a eu des candidats qui ont eu à être empêchés d'aller à certains coins du pays. C'est déjà une sorte déjà de frustration. Il y a eu des candidats qui sont arrivés à des coins du pays, comme à Lubumbashi, il y a eu des violences, il y a eu de barricades, il y a eu des gaz lacrymogènes. On ne les a pas amenés à faire ce qu'ils devaient faire convenablement. Il y a eu des candidats qui devaient, comme un qui devait arriver à Chicapa aujourd'hui, mais qui a pu d'une certaine manière se décider de rentrer. En fait, tous ces tableaux sombres de manière sécuritaire nous poussent à poser vraiment des inquiétudes réelles.
Est-ce qu'un autre défi n'est pas celui de la confiance, comme a dit le professeur Bob Kabamba, la CENI qui, selon lui, ne rassure ni les électeurs, ni les candidats, ni les autres partenaires?
En fait, le problème de confiance, c'est un problème qui minait déjà le processus depuis longtemps. Il y a un climat de méfiance entre parties prenantes. Il n'y a pas un même langage. Il y a un problème de consensus. Et il y a également aussi un problème lié à la communication. Vous savez que c'est maintenant que nous venons d'apprendre que 93% de matériel déjà déployé. Bon, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a pratiquement aussi un problème, c'est que, et là je ne vois pas que la CENI, je vois plus aussi le parti regroupement politique. À part quelques partis dont on a vu le début de formation de témoins, il y a d'autres partis, on n'a pas vu la formation de leurs témoins. Bon, j'ai l'impression que le jour de vote, on risque d'avoir affaire à des témoins qui doivent encore apprendre sur le processus.
Merci. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province de Katanga. Nous saluons des avancées significatives du processus électoral et cela rassure les Congolais et écarte de plus en plus les doutes sur un quelconque report des élections, comme l'information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un imminent report. Mais plusieurs questions méritent quand même des réponses plus claires. C'est notamment le fait que certains candidats se sont vus être empêchés de battre leur campagne électorale dans certaines villes du pays. Cette formation en cascade des agents de la CENI et la non-accréditation des observateurs de l'Union européenne, ainsi que plusieurs autres éléments, peuvent pousser certains à ne pas donner du crédit à ces élections. Je pense que la CENI et le gouvernement doivent tout faire pour rassurer toutes les parties prenantes à ces processus, l'impartialité et la vérité des urnes. Dans les cas contraires, il y aura des contestations et soulèvements populaires difficiles à maîtriser.
Professeur, vous allez répondre à certains aspects de cette réflexion, oui, puisqu'à d'autres, vous avez déjà donné quelques réponses, mais aussi à celle d'Israël Moutala qui se disait que si jamais il pourrait y avoir, nous parlons au conditionnel, il pourrait y avoir un report d'une ou de deux semaines, ça ne ferait de mal à personne.
Mais merci en tout cas pour cette question. Mais il faut bien se rendre compte justement, mais c'est ça aussi vraiment ce qui pose problème dans ce processus. Hein. C'est que généralement tout processus a toujours eu ce qu'on appelle les observateurs de manière des étrangers qui viennent dans un sens de pouvoir voir, valider les différentes orientations, les différentes étapes qui sont en train de se passer. Et ça permet de pouvoir justement accréditer et de pouvoir, entre guillemets, crédibiliser le processus. Lorsque vous n'avez pas les observateurs internationaux qui viennent pour des missions de long terme, pas pour des missions de court terme, comme c'est le cas avec l'Union africaine, la SADC et la CAC, ou l'OIF, où ce ne sont que des missions de très très court terme qui ne vont pas permettre de pouvoir rassurer par rapport au processus. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui découle justement de ce non-confiance dans le processus, ça veut dire que quels que soient les résultats qui vont être annoncés, je peux vous garantir que les résultats qui vont être annoncés, parce que tout simplement le processus n'est pas approprié, n'est pas accepté par tout le monde, il y aura des contestations. Et qui dit contestation, malheureusement, au Congo, il y aura de la violence. Et la violence, ça veut dire qu'il y aura des morts. Et on va être obligé de constater le jour de la publication des résultats. Ça, ce n'est que la conséquence, justement, du fait que il n'y a pas des organisations internationales à long terme qui vont permettre de pouvoir dire que les résultats qui ont été annoncés seront le bon. Et d'autre part aussi, c'est que quel que soit ces résultats-là, ils seront contestés, aussi bien par l'opposition que par la majorité. Et donc, je n'ose pas imaginer la suite qu'il pourrait y avoir en termes de non-appropriation, en termes de non-validation et de non-acceptation de ces résultats par la population. On va risquer des gens, voire même des communautés ou des régions ou des provinces, qui risquent de refuser même de pouvoir accepter les résultats qui pourraient être annoncés, tout simplement à cause justement de ce que l'on est en train de connaître depuis maintenant plusieurs semaines, du fait, j'ai encore le confirmer, du fait de la direction de la CENI qui n'arrive pas à pouvoir crédibiliser ce processus. Vous pouvez vous-même vous rendre compte, vous vous promenez dans la rue de Kinshasa, vous promenez dans les rues de Bukavu, de Goma ou de Lubumbashi ou de Kikwit, tout le monde vous dit qu'ils n'ont pas confiance dans ces processus. Alors comment voulez-vous que les gens aillent dans un processus dans lequel ils n'ont pas confiance? Et si les résultats, quels que soient les résultats, ils seront contestés. Et ça risque maintenant, comme on a vu la fin de la campagne, qu'il devient de plus en plus violent, on risque d'avoir effectivement que les résultats et les contestations seront elles aussi violentes. Et ça, malheureusement, que nous risquons d'avoir dans les prochains jours, si les élections sont organisées dans les conditions que nous tous nous savons qu'elles seront organisées de manière chaotique.
Professeur, pour conclure, un Congolais blessé ou mort encore en sera un de trop. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous à moins de 5 jours pour que l'on ait des élections apaisées? Qu'est-ce qui est encore possible?
Pour ma part, c'est déjà trop tard. Pour ma part, c'est déjà trop tard et que je pense qu'on va plutôt se préparer à ce qu'il puisse y avoir moins de violence, puisque la violence, il y en aura. C'est trop tard déjà. On est à 5 jours du scrutin. Si le scrutin a lieu, même si le scrutin n'a pas lieu, il y aura de la violence. Et donc, si le scrutin a lieu et que c'est déjà trop tard, peut-être essayer, dans la mesure possible, que les différents candidats, que ce sera difficile de pouvoir obtenir ça, que des différents candidats, du fait que même ces mêmes candidats ne croient pas au processus. Alors, comment voulez-vous que ces mêmes candidats vont appeler leurs partisans à ne pas revendiquer, à ne pas reconnaître les résultats des élections? Ça va être vraiment compliqué, et je ne sais pas comment, à 5 jours des élections, pouvoir, si elles sont organisées, pouvoir dire quelle est la recette miracle qu'il faudrait donner pour qu'il y ait que le 23 ou le 24 ou le 25, qu'il n'y ait pas de la violence qui transporte un pays.
Merci, professeur Israël Moutala. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des élections apaisées? On est à moins de 5 jours. Le professeur Bob pense que ça pourrait être un peu difficile.
Pour moi, je veux dire que la paix, c'est notre plus grand bien, absolument. Donc il faudra absolument que nous préservions notre paix, notre cohésion nationale, notre unité nationale. C'est la chose la plus importante.
Quoi qu'il en soit.
Elle est plus importante que les élections. C'est une séquence de la vie d'une nation. Et donc, il ne faut pas aussi exagérer le pouvoir des élections. Les élections ne sont pas une panacée. Et donc, qu'il y ait alternance ou pas, en termes de que le pouvoir bascule du côté de l'opposition, c'est pas en un coup de baguette magique que les Congolais auront des routes, des autoroutes. Non, je pense que ici, il faut absolument que nous préservions la paix. Et même s'il y a... Il y a un problème de déficit de confiance, d'accord. Mais j'aimerais que aujourd'hui aussi que nous mûrissions en tant que peuple. Ça veut dire que s'il y a des fraudes et tout ça, c'est que nous-mêmes nous soyons en mesure d'apporter la preuve de ces fraudes. J'aimerais que nous-mêmes nous soyons en mesure de dire que telle élection est crédible ou pas. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que nos structures congolaises, nos structures locales, nos partis politiques, notre société civile et les capacités de certifier la crédibilité d'un scrutin. Donc, je veux bien que l'on puisse accréditer les missions étrangères, mais je pense que sur le plan domestique, on doit s'organiser aussi pour que la crédibilité des élections soit assurée par nous-mêmes.
Merci Emmanuel Kabengele. La paix et encore la paix.
Oui, je me dis davantage que le parti politique ou parti prenant au processus puisse s'activer dans la formation de leurs membres et sympathisants à jouer le rôle de témoin dans leur bureau de vote.
Même à moins de 5
jours. Un petit recyclage, juste parce que si déjà un témoin arrive au bureau de vote et commence à apprendre, ça sera un problème.
Alors, par rapport aux observateurs internationaux qui n'ont pas été accrédités, est-ce que ça peut entacher la crédibilité du processus?
Bon, si les observateurs nationaux jouent réellement le rôle qu'il faut, ça peut pas entacher. Mais si au niveau national, on ne sait pas déployer tous les observateurs partout, ça pourrait entacher la crédibilité du processus.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Guimate, Willem Lungamba, Dona Madimba et Pelekipela Mondo m'ont aidé à préparer cette émission, coordonnée par et présentée par Alain Rung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.